France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Josep Borrell, un homme politique et universitaire.
Premier épisode, une enfance sous Franco. Bonjour Josep Borrell.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette série pour France Culture, d'autant que c'est la première fois que vous allez revenir sur l'ensemble de votre parcours, de quoi préparer vos mémoires peut-être, nous verrons bien. Votre parcours, c'est celui d'un Européen convaincu qui a traversé un demi-siècle d'histoire du continent, de la promesse démocratique aux nouvelles fractures du monde. C'est de fait par votre action politique européenne et vos hautes fonctions à Bruxelles qu'on vous connaît en France, puisque vous avez été président du Parlement européen de 2004 à 2007, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne de 2019 à 2024. Mais votre histoire épouse aussi celle de votre pays, l'Espagne, et vos compatriotes en savent un peu plus sur votre trajectoire depuis la boulangerie familiale jusqu'à vos hautes fonctions gouvernementales, une trajectoire faite d'engagement et de responsabilité au sein du PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, et qui a fait de vous, on peut le dire, un architecte de la modernisation économique espagnole. À nous, au cours de ces 5 épisodes de 30 minutes, de raconter cet itinéraire singulier. Mais d'abord, je dois dire qu'on est venu à vous, c'est-à-dire qu'on est venu à Madrid. Où sommes-nous, Josep Borrell, en dehors du fait qu'on est dans une rue assez passante et assez bruyante, puisqu'il y a des travaux dehors?
Nous sommes à l'Ateneo. L'Ateneo, c'est des centres de culture qui ont été créés au milieu du 19e siècle, où l'intelligence de l'époque, les illustrés, se réunissaient pour faire avancer les pays. Ils ont eu une époque florissante pendant la République. Avec les franquismes, ils ont pratiquement disparu. Avec la démocratie, ils sont de retour. Et ça, c'est une vieille maison au plein centre du Madrid de los Austrias, de la dynastie d'Autriche. Et là, elle ouvre sa porte à des tas d'événements de toutes sortes.
Et le président vous a gentiment, nous a d'ailleurs, je devrais dire, prêté son bureau, grand bureau, très beau bureau, pour que nous puissions enregistrer ces émissions. Alors, Josep Borrell, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire Josep Borrell Fontelles ou si vous, aujourd'hui, vous dites Josep Borrell.
Pour s'identifier, il faut donner les deux noms. Borrell, mon père, Fontelles, ma mère.
Ces deux noms, vous les avez donc depuis votre naissance, oui. Le 24 avril 1947, dans un village catalan du nom de la Pobla de Segur. Et vos parents étaient boulangers.
Si. Mon grand-père aussi. Et mon père était boulanger et il a commencé à travailler des boulangers en Argentine, à Mendoza. Une ville argentine au pied des Andes, parce que mes grands-pères, mes grands-parents sont des émigrants, ils ont fui la famine et ils sont partis en Amérique du Sud comme des tas d'Espagnols. Se sont installés dans cette ville très belle d'ailleurs, au milieu de vignobles aujourd'hui. Et il paraît que parmi les Espagnols émigrés, la boulangerie était un métier très fréquent. Bon, ils avaient sa boulangerie, et à un moment donné, ils ont voulu rentrer, parce que les grands-grands-parents étaient déjà très vieux, parce que, bon, ils sont rentrés. C'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'ils sont arrivés en Espagne juste avant la guerre civile. Et donc, des temps troubles, se sont réinstallés au village. Et mon père a fait la guerre civile. Ça a été les derniers troubles de la République.
Il a combattu le franquisme.
Très peu de temps, parce que c'était déjà la débandade. C'était déjà l'effondrement du front après la bataille de l'Ebro. Il me racontait qu'au début, quand on allait l'appeler sur le drapeau, les républicains, il disait « Mais moi, je suis argentin. Ah, voilà mon passeport, je suis argentin. » Et ça, pour un temps, ça marchait. Mais finalement, on lui a dit « Ni argentin, ni rien du tout, allez-y. » Et il est embarqué sur le front, mais il est arrivé là. Je ne sais pas s'il est arrivé à combattre, mais il est tombé prisonnier. Il a fait un camp de concentration, comme tous les prisonniers de la République. Et après, il a dû faire son service militaire au Maroc, au Rif, à Tchétchaouen, dans le Maroc espagnol. Et il a mis 5 ans à rentrer à la maison. Donc, il est parti pour faire la guerre. Il n'a pas fait la guerre, mais il a fait un service militaire très prolongé, jusqu'en 1945, quand la guerre est finie. La guerre mondiale, il est rentré à la maison et il a repris la boulangerie familiale et il n'a plus jamais voulu sortir du village.
Il en parlait quand vous étiez petit de cette époque-là, de ces 5 ans d'absence, de la guerre, de ce moment où il était prisonnier, du service militaire.
Il n'en parlait pas beaucoup. Il avait une grande blessure qui lui marquait de l'oreille jusqu'à la bouche, une grande cicatrice. Et qui m'a... Moi, ça m'est...
Ça vous a peur?
Ça vous a impressionné? Mais je me demandais, qu'est-ce que c'est ça? Et il me disait toujours, c'est une blessure de guerre. En fait, ce n'était pas vrai. Après, plus tard, j'ai appris que quand il était jeune, dans la pampa argentine, il allait avec un chariot en distribuer les pains. Un chien sauvage l'avait attaqué, lui avait...
Mordu la mâchoire.
Détruit un peu la figure. Bon, il faisait plus beau dire que c'était une blessure de guerre, mais en fait, c'était un chien sauvage dans la pampa argentine. C'était pas la même chose. Mais non, il ne voulait pas en parler trop. Vous savez, la guerre civile, dans ces petits villages, il a été très dur. Les républicains ont ramasser tous les curés de différents villages du Pyrénées, une vingtaine, et les ont fusillés. Parce que j'étais des curés, tout simplement. Et naturellement, quand les nationalistes sont entrés au village, ça a été la représaille. Mon grand-père est parti, s'est échappé. Ma mère a resté au village, elle était infirmière dans un hôpital de sang. Parce que la ligne de front a été. Il y a une rivière qui traverse les villages. D'un côté de la rivière, il y avait les nationaux, de l'autre, il y avait les républicains. Alors, elle a travaillé dans l'hôpital des sons des nationalistes, parce qu'elle a tombé du côté nationaliste. Et quand la guerre a fini, mon père est rentré. La vue a continué, mais c'était des années de plomb. C'était des années tristes, gris. Je me rappelle, oui, je me rappelle de la guerre civile, la pareja, qu'on dit, le couple de la guerre civile qui allait d'un côté, de l'autre, de la rue. Et ça, c'était 1947, je suis né en 1947. Je me rappelle quand Eisenhower est arrivé en Espagne. Eisenhower, le président des États-Unis, la grande accolade entre le président des États-Unis, le chef de la démocratie occidentale, qui faisait les grands bonjours avec le général Franco. Et je me rappelle là que mon grand-père a dit « Ah, maintenant c'est fini. Si les Américains supportent Franco, on va voir Franco très longtemps. »
Et en fait, il avait raison.
Et on a eu Franco jusqu'en 1975.
Vous vous souvenez aussi, dans ces années-là, alors vous étiez petit encore, hein, en 1958, vous aviez à peine 11 ans, mais vous vous souvenez d'un accident d'avion qui a détruit une des plus belles équipes de football de l'histoire, la Manchester United. L'appareil s'est écrasé en bout de piste à Munich, 23 morts. Ça, vous vous en souvenez, parce que ça a marqué quand même à cette époque-là.
Ça, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Je m'en souviens, mon père se levait tous les jours à 3 heures le matin, pour commencer à faire le pain. Et moi, je faisais un barreau d'honneur de rester à étudier jusqu'à qu'il se levait. Et dans l'image que je garde dans mon souvenir, c'était les bruits de l'horloge qui marquait 3 heures le matin. Mon père se levait et ses pas dans le couloir. Et ce jour-là, je restais un peu plus à étudier. Et puis tout d'un coup, la radio donnait la nouvelle de Manchester United s'est écrasé. Je me rappelle de descendre en courant pour raconter ça à mon père, parce que le Manchester United et le Real Madrid étaient les grands challengers de l'époque. Non, et cet accident-là, peu de temps après, les chars russes sont entrés à Budapest.
C'était le 6 février 58, l'accident. Donc, et Budapest, 56.
Alors, je mélange mon mémoire de dire à mon père, il était en train de mélanger l'eau avec la farine, ces deux choses. Le Manchester United s'est écrasé, tous les footballeurs sont morts. Et l'autre, les chars russes sont à Budapest. Et c'est là que j'ai appris les mots cocktail Molotov. Ça, c'est des choses qui ont resté dans mon mémoire d'enfant.
Vous écoutiez la radio ?
Oui, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et il y avait une radio, elle s'appelait Radio Pyrénaïque, qui était basée à Toulouse. C'était une radio de l'opposition franquiste qui faisait des émissions sur l'Espagne. Et les franquistes me brouillaient le son. Je me rappelle quand j'allais voir un de mes grands-oncles, et que j'ai rentré à la maison pour lui amener les pains, et il écoutait la radio avec un sac par-dessus la tête, de façon qu'on n'écoute pas. Chut, fais pas de bruit. Et là, il avait le sac sur la tête pour écouter la radio Pyrénaïque, sans qu'on puisse entendre qu'il était en train d'écouter une radio interdite. Et je me rappelle très bien. Aquí, Radio Pyrénaïque, la radio libre para todos los españoles.
Ça revient vite dans ces cas-là.
Aquí, Radio Pyrénaïque, non ?
Donc ça veut dire, Josep Borrell, que grandir à la Pobla de Segur dans les années 50, c'est pas forcément grandir dans une ambiance très joyeuse où il y avait beaucoup de choses à faire. Vous dites qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Étudier, peut-être.
Lire.
Vous, étudier, travailler. Lire.
Lire. Ma mère aurait voulu. Mon père, comme je vous dis, il est rentré après 5 ans. Il n'a plus jamais voulu sortir de la maison, plus jamais. C'était pas quelqu'un curieux du point de vue intellectuel. Ma mère, oui, ma mère, elle aurait voulu faire étudier maître d'école.
Ouais, institutrice.
Institutrice, elle n'a pas pu. Parce que la guerre l'empêchait, elle a fait infirmière, et puis après elle a fait la boulangère. Mais elle toutes les semaines, allait acheter les livres qui arrivaient. C'était abonné à un cercle de lecture, toutes les semaines, arrivaient les livres. Et je m'en rappelle de lire ces livres. C'est là que j'ai connu, par exemple, Pilsbach. La Bonne Terre, hein, cette écrivaine américaine qui racontait comment c'était la Chine pré-maoïste, des tas de livres que je lisais. Je lisais tout. Et puis à 10 ans, vous savez, le système scolaire espagnol, à 10 ans à l'époque, soit vous restez à l'école publique, 4 ans de plus, jusqu'à 14 ans, ensuite vous allez vous débrouiller, soit vous entamez le baccalauréat. Mais alors,
le bachillerato.
Bachillerato, le bac. Vous appelez le bac. Le bac, c'est très connu en France. En Espagne, ce n'était pas aussi connu. Le bachillerato. Mais alors, à 10 ans, vous deviez quitter l'école et aller au lycée.
Et donc passer un examen d'entrée.
Oui, mais aller à un lycée, s'il y avait un lycée. S'il n'y avait pas le lycée, alors il fallait que vous passiez un examen d'entrée à 10 ans pour commencer votre baccalauréat. Et s'il n'y avait pas de lycée chez vous, ouais, alors vous faites ce qu'on appelait les élèves libres.
Candidats libres.
C'est-à-dire, vous étudiez chez vous une fois par an. Une fois par an, vous alliez à la capitale du département et vous passez votre examen. Une fois par an. Alors moi, j'ai fait ça. Ma mère a décidé qu'il fallait que je fasse mon baccalauréat et je suis resté à la maison. Et ma mère était ma professeure. J'avais des livres, je lisais, et puis ma mère, quand elle rentrait le soir, après avoir fermé la boulangerie, elle me prenait la leçon, elle me demandait qu'est-ce que j'avais étudié, on discutait, on parlait, à côté du feu. Et ça a été une façon magnifique d'étudier, parce que j'ai eu des résultats académiques très bons, très très bons.
Vous aimiez ça?
Si. Si.
Vous n'aviez pas envie de reprendre la boulangerie familiale ou d'aider à la
non,
boulangerie familiale?
Non, surtout pas envie de me lever à 3h le matin tous les jours.
En plus, tous les jours, vous deviez déjà aller ramasser du bois avant de manger.
Oui,
et vous
oui
ça.
Chacun avait sa tâche. Il fallait avant manger, il fallait que j'aille ramasser du bois. Et il fallait que j'aille distribuer les pains. C'était à l'époque, vous savez, où le migrant andalou arrivé en Catalogne. C'était les années de la grande migration des travailleurs andalous et des autres côtés de l'Espagne, mais surtout andalous, qui arrivaient en Espagne pour travailler dans la construction des barrages. Les grands barrages, les grands travaux publics que le franquisme a fait, c'était des énormes barrages dans les Pyrénées, que maintenant on ne laisserait pas les faire pour des questions environnementales, mais qu'à l'époque, c'était des barrages énormes qui faisaient donner de l'électricité pour Barcelone. Et mon premier choc social, c'était voir arriver ces gens-là. Parce que mon village était la fin du train. Le train arrivait jusque là. On aurait voulu faire passer de l'autre côté des Pyrénées, mais c'est arrêté là. Alors ils arrivaient, et je m'en rappelle bien, des gens avec des costumes noirs, avec manifestement des gens qui étaient très pauvres, qui venaient de passer je ne sais pas combien de nuits de train. Et tu aperçus aussi pour première fois le classisme et l'ethnicisme. C'est-à-dire, les Catalans ne voulaient pas se mélanger avec eux. Et on les appelait los charnegos. C'est un mot despréciatif, los charnegos. C'était des gens qui ne parlaient pas catalan, évidemment, qui étaient tous analphabètes. Qui venaient de l'Andalousie profonde, très pauvre, mais qui venaient travailler là. Et ça a été ma première prise de conscience sociale. Quand j'ai amené les pains dans les tavernes où ils se logeaient, je voyais, je sentais qu'on les apercevait comme différents, qu'il y avait un refus. Donc, surtout pas une fille du village aurait sorti avec un d'eux, non? Et c'est les années dans lesquelles la Catalogne a reçu des centaines de milliers de migrants, beaucoup plus dans les grandes villes, mais aussi dans les toutes petites villes où on faisait de gros travaux publics.
Et quand vous alliez au lycée, puisque vous avez passé votre examen et brillamment, vous avez réussi, Joseph Borrell, donc vous êtes entré au lycée. Quand vous alliez au lycée dans la grande ville, vous les voyiez aussi cette différence sociale que vous ressentiez dans le village, ou c'était vraiment propre à chez vous?
C'était tout très rapide, parce que je prenais le train le matin à 7h le matin, j'arrivais à la capitale du département, je descendais du train avec ma petite valise, j'allais au lycée, j'ai passé mes examens, je rentrais à la gare, et le soir je rentrais à la maison à nouveau.
C'était vraiment un aller-retour.
J'apercevais rien, c'était tout simplement être capable de passer les examens, non?
C'était quand même assez exceptionnel, je crois, hein, à l'époque, de faire ce que vous avez fait.
C'est exceptionnel de faire le baccalauréat.
Et très peu d'enfants, et en particulier...
Très peu d'enfants faisaient le baccalauréat dans mon village. J'étais parmi les premiers. Après les autres, c'est développé assez vite, mais en 1957, c'était rare faire le baccalauréat. Et c'était ma mère qui a décidé qu'il fallait que je le fasse.
Et votre père regardait ça d'un bon œil?
Bah, il m'a dit, le jour où tu ne passeras pas l'examen, tu deviendras boulanger.
Ça vous a aidé à continuer à travailler, j'ai l'impression.
C'était un incentif très fort.
Bah, ça a bien marché, parce qu'en plus, après, vous avez obtenu des bourses qui vous ont permis de quitter le village, de faire des études supérieures.
Ça, c'est plus tard. On rappelle aussi le moment où il fallait choisir entre faire le baccalauréat lettres ou le baccalauréat sciences. Je ne sais pas si en France vous aviez la même
c'était
chose,
ça, hein, encore, à l'époque.
Vous faites la branche sciences ou la branche lettres.
C'est plus vrai, mais...
Et la grande discussion familiale, ce qui est... Et... Moi, j'étais assez doué pour écrire, mais j'aimais bien les mathématiques aussi. Donc... Et alors, c'est, vous savez, à l'époque, il y avait deux choses qu'on pouvait être, à part être curé ou militaire. Hein. Vous pouvez être curé ou militaire, mais si vous avez un métier civil, soit vous étiez ingénieur, soit vous étiez médecin. Ça, c'était les choses sérieuses qu'on pouvait être. Surtout dans un village où on faisait des grands travaux publics, et les ingénieurs avaient une certaine auréole, non ? Et les médecins aussi. Alors, je me rappelle que mon père a dit, bah, s'il faut faire le sacrifice de quelqu'un qui l'étudie, il faut qu'il soit médecin, ingénieur, hein, pas d'autre chose. Hein. Bon, alors j'ai choisi...
L'un des deux.
J'ai choisi ingénieur parce que les mathématiques... et puis je suis jamais été trop courageux pour les blessures, les sangs. Et quand ma mère m'a raconté ces histoires d'infirmières dans l'hôpital des sangs, ça ne me faisait pas...
Envie.
C'était des histoires, je me rappelle toujours. Vous savez, il y avait beaucoup de soldats marocains. Dans les troupes de Franco, il y avait beaucoup de soldats marocains. Et les soldats marocains ne se les aient pas amputés. Parce qu'ils disaient que si on les amputait, si on leur coupait un bras ou une jambe, ils ne rentreraient pas dans les paradis. Et ils préféraient mourir avant de les amputer. Et il me rappelait qu'il était un officier, c'était rare de Marocain officier, mais il devait être le fils d'un caïd, d'un noble Marocain, qui était très beau, avec son moustache, et il fallait le couper la jambe, il a dit surtout pas, ne me coupez la jambe, non, non. Et que le médecin, il était gangréné, non ? Il a dit, bon, écoute, amenez-le au frigidaire. Le frigidaire, c'était tout simplement la cour. La nuit, le froid. Le lendemain, il était mort de froid. Et on nous a amené au frigidaire. Ah, vous ne voulez pas qu'on vous ampute ? Allez, au frigidaire. Et demain, vous serez mort.
Bon, bah, c'est des histoires qui marquent, et donc vous avez choisi de faire du génie industriel.
Et surtout parce que j'aimais bien. J'étais curieux du point de vue. J'ai passé mon temps à construire des petits avions en bois, et des petites machines. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'école d'ingénieur de base à Barcelone.
D'abord, et puis ensuite vous avez rejoint l'Université Polytechnique de Madrid en ingénierie aéronautique.
Ce qui était encore beaucoup plus extraordinaire pour l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule école dans toute l'Espagne pour étudier SupAéro, que vous appelez SupAéro, non ? Il y avait une seule école dans toute l'Espagne et il ne faisait que 30 diplômés par an pour tout le pays.
Donc une école extrêmement sélective.
Extrêmement sélective. Extrêmement sélective, très, très liée à l'armée de l'air à l'époque. Très, très disciplinée. C'était une école civile, mais très liée. Parce que le débouché, il n'y en avait pas beaucoup. L'armée en c'était une. Et je me rappelle à l'époque d'avoir connu Toulouse, quand la France faisait le développement de Toulouse, les caravelles, comment Toulouse, qui était une ville agricole plutôt, est devenue une ville industrielle. Et SupAéro a été placé à Toulouse.
Mais ce n'est pas à Toulouse, Joseph Borrell, que vous êtes venu apprendre le français tel qu'on entend que vous le parlez encore aujourd'hui. C'est à Paris, parce que après l'école en ingénierie aéronautique de Madrid, où vous êtes orienté vers l'économie, Vous avez poursuivi vos études jusqu'au doctorat en sciences économiques de l'Université Complutense de Madrid. Alors ça, vous l'avez obtenu en 1976, plus tard. Mais grâce à une bourse, pendant ces années-là, pendant que vous commenciez, disons, votre doctorat, vous vous êtes spécialisé en économie de l'énergie à l'Institut français du pétrole à Paris. Et vous voilà un an à Paris.
Et avant ça, ma première leçon de français, ça a été quand on allait travailler aux vendanges.
Oui, les petits jobs d'été que vous avez fait.
Tous les étés, tous les mois de septembre, je me rappelle, près de Auch, on allait dans des fermes. Moi, on devait avoir 14 ans, hein, 15 ans. Et on travaillait
dans les vendanges.
Dans les vendanges. Et c'était une expérience très jolie.
C'est-à-dire que Paris n'a pas été la première expérience de sortie de l'Espagne franquiste pour vous. Il y en avait eu d'autres.
La première expérience a été les vendanges. Et c'est là que j'ai apprécié les fromages français. Et les téléjournaux.
Le journal télévisé.
Le journal télévisé.
Ça a été une ouverture d'esprit, cette année en France. Alors, les vendanges, manifestement,
plusieurs années.
L'année que vous avez passée, ou les 2 ans que vous avez passées à Paris ?
À Paris, j'y ai passé presque 3 ans. J'allais faire des cours du soir à Sciences Po.
C'est là que vous découvrez l'économie marxiste ?
Oui, j'ai fait des cours du soir d'économie marxiste à la rue
Saint-Guillaume. En tous les cas, Sciences Po aujourd'hui est encore à la rue Saint-Guillaume.
Quelques années plus tard, mon fils a fait Sciences Po à la rue Saint-Guillaume. Et c'était amusant parce que... mettez-vous dans l'année 69-70, non ? Faire de cours du soir d'économie marxiste, je ne sais pas si je comprenais grand-chose, mais c'était un bon complément à toutes les mathématiques, la thermodynamique et toute la physique de fluide qu'on nous mettait dans les cours de l'IFP.
En tout cas, vous nous direz à l'épisode suivant, Joseph Borrell, si ces cours du soir à Sciences Po ont aidé, favorisé votre envie de rejoindre le Parti Socialiste Espagnol. Mais pour sortir de ces études, vous devenez en 1972 et pour de nombreuses années, jusqu'en 1980 et 82 même, à la fois ingénieur pour la compagnie pétrolière espagnole, CEPSA, et puis professeur de mathématiques à la faculté d'économie de l'Université Complutense de Madrid, où vous aviez fait vos études. Déjà une double casquette, même plusieurs, puisque nous allons voir au cours de ces entretiens que des casquettes, vous en avez un certain nombre. Vous n'en avez pas sorti aujourd'hui, mais peut-être que demain, vous en mettrez d'autres. Merci beaucoup pour ce premier épisode. Et on se retrouve demain pour la suite avec l'épisode 2, l'entrée en politique dans les années 80. À demain. Oui. C'était À Voix Nue avec Joseph Borrell, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.